Conférence privée par le Père Philippe à Saint-Joseph le 2 juillet 1987.
C'est pour le noviciat. Alors, vous connaissez, hein, pour que j'ai pu faire le petit pèlerinage à Notre-Dame de Guadeloupe. Alors j'ai ramené pour le noviciat. C'est la vicia qu'on doit aimer le plus. Forcément, ça ne peut pas être autrement. Et puis, c'est le signe qu'on a beaucoup prié pour le noviciat et pour le permettre. C'est très beau, Notre-Dame de Guadeloupe. C'était à 1000 km. Donc c'est tout proche. Une journée en avion, vous comprenez? Et ça coûte pas cher, puisque c'est sur le terrain mexicain, comparativement à l'Amérique. Et pour vous montrer comment l'argent mexicain dégringolait, il y a 10 ans, c'était à peu près parallèle au franc français actuel, le dollar. Maintenant, un dollar, c'est 1300 pesetos. Ah oui, ce que sera le franc français dans 10 ans. Vous connaissez suffisamment l'histoire de Notre-Dame de Guadeloupe. Vous tous êtes les 10 Indiens. C'est tellement touchant et c'est tellement beau. Surtout quand on est dans ce bon peuple, au lieu des apparitions, où il y a de magnifiques, parce qu'elles sont très, très couleur locales. Magnifique repropodité, c'est une espèce de toile peinte pour représenter le petit indien successivement. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est quand le petit indien vient auprès du prélat. Vous savez bien qu'il ne savait pas comment y aller quand la Saint-Dieu lui a demandé d'y aller. Il n'a pas fait comme Moïse en demandant un signe, quel est ton nom, pour que je puisse. Mais il a fait la même chose. Donc, il ne va jamais me croire. Alors la Vierge Marie lui dit, va de l'autre côté, tu vas trouver des fleurs. Alors on représente admirablement tous des anges avec des arrosoirs qui sont en train de... en train de préparer toutes les roses qui dégringolent dans le tablier du grand petit indien. Alors, quand le petit indien se présente, et que au nom de la Vierge Marie pour montrer qu'il vient bien au nom de la Vierge Marie. Il pensait, lui, dans son grand sac, mettre uniquement des roses. Il ouvre son tablier. Tout Notre-Dame-de-Guadeloupe. Alors que c'était pas ça du tout. Et ça voulait dire, autant qu'on peut préciser maintenant, c'est Mère de Dieu. Je suis la Mère de Dieu. C'est comme ça qu'elle se présentait. Donc je suis la Mère de Dieu. Marie toute jeune, Mère de Dieu. Comme à l'Annonciation et à Bethléem. Et ça m'a beaucoup touché de voir qu'auprès du prélat, il y avait un dominicain. Donc vous voyez, de Guadeloupe est lié. Et quand j'ai dit ma messe à Notre-Dame de Guadeloupe en pensant à vous et en priant pour vous, il y a la nouvelle basilique, puisque l'ancienne est en train de se détruire à cause des tremblements de terre. Là, il y a des grandes fissures. On ne peut plus entrer dedans. C'est bien ça. C'est trop dangereux. Alors on a construit une nouvelle basilique, genre moderne, bien du reste, très fonctionnelle, tout à fait. Alors le tableau de Marie est très loin, mais il est bien parce que tout est centré sur cela. Et alors on passe derrière l'autel pour être juste en face, le plus proche possible. On est quand même assez loin avec mes pauvres yeux. Je voyais de loin, mais ça n'a pas d'importance. C'est que c'est la présence de Marie qui est là. Et c'est vrai, il y a tout le temps du monde. Et beaucoup, beaucoup d'Indiens, de Mexicains, Indiens, visibles. Enfin, ils ont la tête, ça. C'est beaucoup d'enfants, extraordinaire. Le nombre d'enfants qui passent là. Vous savez bien que le Mexique actuellement, 42 millions. Dont 22 millions en dessous de 20 ans. Avec la France. Et c'est 22 millions de personnes pour les enseigner. L'évêque auxiliaire de Montalé est venu me voir quand j'étais à Larado. Il voulait à tout prix. L'évêque n'étant pas là, il s'est déplacé. Il est venu avec un vicaire épiscopal. On a pris un repas ensemble. Alors il a dit, je viens pour vous supplier de venir. Bien qu'il y a un dixième. Quand il y a 10 prêtres en Amérique, il y en a un au Mexique. Il y a une pénurie effrayante actuellement devant cette espèce de... Et puis alors une misère de père, le père Juan Marie et le père Jean-François. Font tous les mois 8 jours en mission du côté mexicain. Ils reviennent alors tout le temps. Ça nous donne une expérience. Ils nous apprennent. Ils ont la foi. Ils savent très peu de choses, mais ils nous reçoivent comme avec une avidité folle. Et ils vivent dans une pauvreté. C'est tout juste si c'est pas la famine. Ils peuvent uniquement vivre. Et je crois que c'est assez général dans certains coins du Mexique, d'autres coins. L'air est tellement pollué au Mexique, dans la ville, à Mexico, que paraît-il, passer une journée à Mexique, c'est comme si on fumait 2 paquets de cigarettes par jour, dans la journée. Certains jours, c'est comme s'il y avait un brouillard. La ville de Mexico est entourée de... sur les bords du désert. On entend les cris des porcs sauvages le matin et d'autres animaux. Donc, c'est le désert tout proche. À 5 minutes à peu près du pont qui fait la frontière. Yeah. c'est la solitude, la doctrine. Et au fond, une vie apostolique, ouverte. Alors, c'est très beau. Je suis très heureux de ça parce que c'est le prototype. Oui, il n'y a plus qu'à répéter ça, maintenant, demander au Seigneur d'avoir 25 évêques.
Passionné.
Le lieu de prière est le lieu de prière à la fois isolé et commune. Une prière seule, quand tu es dans ta chambre, prie le Père qui, dans le secret, voit. On n'a pas envie de parler, vous savez. Même ceux qui bavardent là-bas n'ont plus envie de parler. Donc, un seul désir, c'est soit vraiment le grand, grand silence. Il y avait quelque chose, presque un sacrilège de parler dans. Tellement tout appelle le silence. On est en dehors de la ville. Et donc, c'est vraiment le silence. Je vous dis, il y avait une conférence pour les amis de Saint-Jean. Un soir, c'était la veille de l'ordination. Je me suis dit, on va pas aller recevoir les amis de Saint-Jean dans la maison d'œuvre. Ça ne va pas du tout. Alors j'ai dit au père Jean Thomas, où est-ce qu'on va recevoir? Je sais pas, il n'y a pas de lieu pour les recevoir ici. Ici, selon Monseigneur, c'est uniquement les moines. Quand il a béni la maison, il a dit, c'est la première fois, la dernière fois que vous voyez. Vous n'entrerez plus ici. Il y a l'accueil, et puis c'est tout. Et vous n'entrerez plus ici. Alors, je vis la possibilité, en regardant attentivement, j'ai vu qu'on pouvait très bien fermer le cloître. Il y a une porte d'entrée par la chapelle. Et juste devant la chapelle, on a une grande salle. Ça fait une grande salle, peut-être 100. On était 70, 80. Et puis, on termine en ouvrant les portes de la chapelle. Et un Salve Regina, ou la messe, là, c'était un Salve Regina, puisque c'était le soir. Alors j'ai dit ça à l'évêque. Alors l'évêque a dit oui, très bien. Très bien pour les amis de Saint-Jean. Très bien pour les oblats. Mais seulement ceux-là. Les amis de Saint-Jean et les oblats. Les autres, non. On les reçoit à la maison d'œuvre. Ou à l'accueil. Que vous fassiez ça 3-4 fois par an. Très bien. Et pas plus. Voilà. L'évêque dit, je donne ça à titre de conseil. Je dis, très bien, Monseigneur, c'est très bien à titre de conseil. C'est ce que nous désirons. Que le couvent soit de plus en plus un lieu de prière où on aime de rester parce que c'est un lieu de prière et de travail. Là, l'accent est très mis là-dessus. Autant la maison d'œuvre est ouverte. Il y a des récollections toutes les semaines. Ah, Jean Thomas s'est beaucoup débrouillé. Et de fait, il y a pas mal de choses. Toutes les semaines, il a une conférence. Vous voyez? Toutes les semaines, donc par mois, il y a 4 conférences différentes où il y a 30, 40 personnes de l'Aréto qui viennent parce qu'ils ont une très grande avidité. Et à la messe dernière, ils avaient une centaine de personnes, des amis, 150 personnes, des amis qui étaient tous là, jusqu'au juge fédéral, personne importante qui était là, présent. On sent un fond de foi. Et un désir d'un enseignement. Ça, c'est très très net. Parce qu'ils sentent que ce qu'ils ont d'habitude n'est pas suffisant. Il y a un désir de ça. Alors, en plus de ça, le désert. Et je crois qu'au désert, il faut essayer, il faut y penser, il faut prier pour ça, c'est pour ça que je vous en parle. Un lieu qui puisse être comme une école pour des jeunes. 6 mois, 1 an au désert. Une vie très simple, très dépouillée, avec un enseignement. Le point de vue spirituel. Et puis un travail matériel. Il y a de quoi au désert. Construire des chalets, construire des ermitages. Je crois que ça. Parce que très très vite, il y aura des jeunes qui viendront du Mexique ou des jeunes qui viennent d'Amérique. On ne peut pas les recevoir tout de suite au couvent. Le couvent est trop chartreux. Et c'est bien qu'ils sont comme ça. Avant de s'installer au Mexique, il faut qu'on éduque quelques Mexicains qui désirent vraiment se donner entièrement au Seigneur. Et ils sont nombreux. Qu'on puisse avoir là une petite école. On verra après ceux qui veulent rester dans la communauté, ceux qui simplement viennent pour avoir un an de silence, un an de prière, un an d'éducation, à la fois de vie commune et puis en même temps de spiritualité. Je crois que ce serait quelque chose de très beau et en même temps de très typiquement Saint-Jean, vous voyez. C'est ce qui m'a semblé là-bas, qu'on réalisait d'une façon assez bien l'ouverture au monde. Cette ouverture au monde avec la maison d'œuvre. Et une vie apostolique très, très intense. Faut bien voir que Jean-François, pendant toute l'année, enseignait dans un des plus grands collèges de Laredo. Il avait tout l'enseignement catéchétique. Il m'a dit, j'ai tenu bon pendant l'année, c'était dur. Mais j'ai tenu bon, il m'a dû être terminé. Il s'est reposé parce qu'il était éreinté. Il avait dit jusqu'au bout. Il dit, l'année prochaine, je vais changer un peu de méthode parce que je ne peux pas tenir comme ça. Je veux être beaucoup plus présent pour eux, au point de vue personnel. La messe, les confessions, et puis des petites sessions différentes pour les aider à découvrir le point de vue spirituel. Mais tu sais ce que c'est le collège des riches. Mais c'est le collège le plus huppé de Laredo. Mais il faut bien qu'il y ait ça. Du côté du Mexique et du côté des Américains. Et c'est pour ça qu'il aimait d'aller en mission pour retrouver les pauvres. Donc il avait sa vie apostolique. Avait sa vie apostolique avec toute la maison d'œuvre qui marche et des personnes, évidemment. Il y a trois personnes qui sont là, trois laïcs dévoués qui sont là pour le point de vue matériel. Et lui, il fait uniquement le point de vue spirituel. L'accueil, le point de vue spirituel, il dit un accueil énorme parce que les gens ne trouvent jamais un prêtre disponible. Il n'y a pas de prêtre disponible. Alors lui, il est un peu le prêtre disponible de Laredo. Et donc il reçoit des gens qui viennent un peu de partout. Ils savent à quelle heure il dit la messe, à quelle heure. Et un accueil spirituel. Et puis ses conférences. Donc il y a toute une ouverture très spirituelle, pratiquement, d'enseignement. La maison, proprement du couvent, et c'est très important, de prière et de vie commune. Et puis le désert. Et un désert qui doit fleurir. Un désert qui doit fleurir pour que tous les petits, les pauvres, qui ont tellement besoin de recevoir la parole de Dieu, puissent venir. Oui, je crois que ça permet, c'est l'avantage de là-bas, ça permet de réaliser là-bas immédiatement ce que le Saint-Père demande. Que ce soit des religieux, de la seconde évangélisation. Ça, il réalise parfaitement ça. Quelque chose qui n'existe pas là-bas et qui ont, dans le peuple chrétien, absolument besoin. Et je dirais que la présence de ce monastère, de ce couvent, qui fait un peu, c'est très curieux, la première fois, mais c'est une mosquée. Il y a un petit peu de ça, si vous voulez. C'est bien, c'est très bien. J'aurais aimé au-dessus de chaque cellule qu'il y ait une petite croix. On l'a pas mise, mais j'aurais aimé ça. Parce que ça aurait bien montré toutes les petites croix qui étaient chaque petite cellule, chaque petit lieu. Plus tard, je crois qu'on pourra avoir le Saint-Sacrement. qui n'existe pas là-bas. Quand on a montré à l'évêque mexicain, Alfonso, quand on lui a montré cela, il s'est retourné vers moi et m'a dit « Est-ce que je pourrais venir faire ma retraite ici ?» Passer 8 jours de silence ici, c'est ça dont j'ai besoin. Et il a ajouté « C'est cela dont nous avons besoin. » Alors j'ai dit « Bien évident pour les évêques et les prêtres, c'est ouvert. » Ils garderont le silence absolu.
Aujourd'hui,
sur les lieux à Belvoisin pour voir un tout petit peu nos sœurs apostoliques et puis les frères. Alors évidemment, c'est rude. Hein. C'est rude. Quand on voit ça et quand on voit ce qu'ils ont, ils ont tout à reprendre. Mais c'est bien. C'est une pauvreté très grande. Les sœurs ont de quoi se loger. Les frères aussi. Les gens sont d'une générosité pour eux. Et sont heureux de les voir là. Avant, c'était un orphelinat. Maintenant, un orphelinat qui est abandonné, je crois, depuis plus de 10 ans. Là, maintenant, ça reprend. Et il y a un petit foyer très lié au Lion de Juda qui est là, que l'évêque avait mobilisé un tout petit peu avant la venue des frères pour s'occuper de mouvements de jeunes foyers. Il voudrait que Belvoisin soit très lié à toute la famille. Il a confié à ce foyer un accueil. Alors, ce foyer, dès qu'il a rencontré la communauté Saint-Jean, ils ont dit c'est merveilleux, il faut marcher la main dans la main. Nous serons là pour les foyers, puis on vous demandera de temps en temps de venir pour nous aider, pour que nous puissions donner tout ce qu'il faut. Donc là aussi, il y a quelque chose qui est en train de se faire avec les pauvres. Et puis, au moins du apostolique, ils ont déjà déniché une toute petite maison, un peu plus loin, qui sera un ermitage. Très très bien, ils pourront passer là, quand ils pourront, un moment tout à fait solitaire et de prière. Alors priez pour cela, et priez Notre-Dame de Belvoisin, Notre-Dame de Miséricorde, Notre-Dame des pauvres, et c'est ça qui est toujours là-bas, c'est Notre-Dame des pauvres, c'est proche de Banneux, c'est pas la même chose, parce que là-bas, c'est tout petit comme pèlerinage, vous savez bien, ce sont les dominicaines contemplatives qui ont la chapelle où est apparue la Vierge Marie, du moins. Elle est apparue il y a 100 ans. Mais le Père Jean-Philippe revendique que lui, il a la statue authentique. Tandis que de l'autre côté, on avait une statue semblable. Mais la statue authentique, elle est chez le Père Jean-Philippe, là où nous sommes. Et pourquoi? C'est parce que, selon la statue authentique, qui était faite selon la voyante, Marie avait un scapulaire du Sacré-Cœur sur la poitrine. Et ça n'allait pas du tout. On a dit non, ça va pas. Hein, comme le scapulaire est fait dans la statue, il n'est pas ajouté dessus, vous comprenez? La statue avait été sculpte, avait été faite, une statue un peu genre Saint-Sulpice, pas très belle, mais qui avait été faite selon les désirs de la voyante, telle que Marie était apparue, avec aux mains, dans les mains de traits. Enfin, vous savez, la miséricorde humble et beau, douce et humble. Mon cœur est douce et humble, la miséricorde douce et humble, les deux lumières de la miséricorde. Alors, la statue du temps de la voyante est chez le Père Jean-Philippe, tandis que l'autre, c'est le lieu où elle est apparue, avec cette statue sans le scapulaire du Sacré-Cœur. Elle est chez les moniales, chez les dominicaines. Et ce sont les dominicaines qui ont la petite chapelle, parce qu'on en a fait tout de suite une petite chapelle, parce que la Vierge Marie est apparue dans la chambre de la malade. Et maintenant, c'est devenu une petite chapelle, le lieu où elle est apparue. Et à côté, le monastère s'est construit. Ou plus exactement, le monastère a hérité, je crois, des biens de la personne chez qui la voyante était au service. Et c'est devenu un monastère. Alors c'est bien aussi qu'il y a les deux dans le bas de la ville. C'est le lieu d'apparition avec 13 dominicaines contemplatives. Elles étaient 30. grâce et des sœurs contemplatives de Saint Jean, il faut quand même les renflouer. Avis aux amateurs. Elles attendent plus pour ça, alors. Ne vous inquiétez pas si un jour vous avez une grâce extraordinairement profonde qui vous dit non, ma vocation c'est d'être chez les contemplatives, nos belles voisins, chez les dominicaines contemplatives. Il faut prier pour elles, j'ai promis qu'on prierait pour qu'il y ait une nouvelle fécondité pour elles. Parce que c'est important quand même. C'est pas drôle quand on est 30 et puis qu'on diminue progressivement, qu'on n'est plus que 13. Un couvent qui peut contenir au moins une vingtaine, 20, 25 religieux. Aussi, il faut prier la Vierge Marie. Demandons donc à la Vierge Marie, puisque tout ça c'est l'année mariale, de nous aider à mieux comprendre cette exigence de la contemplation. Parce qu'en définitive, c'est ça que Marie veut nous faire comprendre. Tous. Cette exigence de la contemplation, et c'est Marie seule qui nous éduque à la contemplation. Elle nous demande d'avoir une doctrine profonde. Et ça, je crois que Marie nous le demande pour transmettre son message. Le Père de Haume disait toujours, oui, enfonce-toi dans la métaphysique pour pouvoir parler de la Vierge Marie. J'ai toujours beaucoup aimé cette affirmation du Père de Haume. Au début, je ne voyais pas très bien. L'être, Marie, c'est l'amour. Et ratio body, ratio entis. C'était ça que le Père de Haume voulait faire comprendre. Et je crois que c'est vrai. On ne peut pas parler de l'amour sans qu'il y ait la métaphysique. Et on ne peut pas parler du cœur immaculé et du cœur douloureux de Marie sans la métaphysique. Autrement, on tombe dans la dévotion, vous voyez. Pour parler dignement de l'amour, il faut un regard très profond. Et pour parler dignement du cœur de Marie, cœur immaculé, cette mère de cristal, comme dit l'Apocalypse, il faut, je crois, entrer très à fond dans la pureté de notre intelligence, qui doit être au service de l'amour. Et alors, si notre intelligence est toute purifiée, pour être au service de l'amour, c'est quelque chose de merveilleux. Ah, j'ai oublié de vous dire, vous priez pour lui, le frère de notre père, John Murray, qui était entré chez les Dominicains. Il s'appelle David. Alors, il faut qu'il y ait une religieuse qui le prenne sous sa protection. Il était entré chez les Dominicains, il n'est pas resté. Il prépare maintenant son doctorat en philosophie, où il fait une thèse sur l'immortalité de l'âme, selon saint Thomas. Et que ça rejoint la thèse de notre frère Jean-Marie Laurent. Je lui dis qu'il y avait une thèse qui se faisait, alors il m'a dit, j'espère que ma thèse paraîtra avant. Il l'a fait pour Notre-Dame. Et son évêque, en Virginie, l'état de Virginie, lui demande d'être responsable de toute la formation philosophique de son grand séminaire. Alors, vous voyez que nous nous sommes rencontrés. Un soir, il m'a dit, mon père, dites-moi comment il faut que j'enseigne la philosophie à ces jeunes. Alors, j'ai essayé de lui donner le fil conducteur, comment il fallait à la fois rester très, très enraciné dans la doctrine et en même temps tout reprendre. Mais on a là-bas quelqu'un qui nous aime beaucoup, ça. Ça, c'est désagréable, en tant que catholique, de s'entendre dire ça. Alors, ils ont relevé Paris. On va vous montrer que nous, c'est aussi le Saint-Esprit. C'est en même temps très américain, vous voyez. On va tout à fait Élie relevant le défi des prêtres de Baal. Viens, on va vous montrer que le Saint-Esprit est avec nous. Venez prier avec nous. Et vous verrez que le Saint-Esprit viendra plus vite chez nous que chez vous. Et c'est ce qui est arrivé. Le Saint-Esprit est venu plus vite chez eux, chez les catholiques, que dans la secte protestante. Et il est venu de façon magistrale. Soudainement, ils se sont mis à parler en langue, mais vraiment à parler en langue, une langue qu'ils ignoraient. Et le père O'Connor était là, dit, mais c'est curieux cette langue. C'est l'araméen. Alors il s'est mis à noter. Puis il dit, mais chacun, successivement, dit l'Ave Maria en araméen. Ça m'a beaucoup étonné. Les autres ne comprenaient rien. Puis une fois que tout l'Ave Maria était récité, la première partie de l'Ave Maria était récitée, il y a eu un grand silence. Alors le père O'Connor a pris la parole et leur a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils ont dit, on ne sait pas. Mais est-ce que la Vierge Marie était présente? Oh oui, on ne l'a jamais sentie comme ça, aussi présente. Elle était là. Alors le père O'Connor a dit, vous savez ce que vous avez dit? Non. Bien, vous avez dit l'Ave Maria en araméen. Et à partir de ce jour-là, ils se sont mis à réciter le rosaire tous les jours, ensemble. Alors qu'avant, ils ne savaient pas ce que c'était. Il fallait leur expliquer ce que c'était que le rosaire. Ça a commencé comme ça. Et alors, devant ça, nos chers protestants ont dit, Saint-Esprit vient plus vite chez les catholiques que chez nous. Donc il doit y avoir quelque chose de vrai. Parce qu'il venait plus vite. Épreuve de force, hein. C'est extraordinaire, ça. Le père O'Connor est quelqu'un, un très bon théologien, qui aime beaucoup la Vierge Marie. Très bon théologien, très net. Alors, je lui ai demandé comment ça allait là-bas. Et le père O'Connor m'a dit, c'est désolant. C'est désolant. J'en ai encore pour 5 ans. Je ne sais pas si je tiendrai. Mais c'est désolant. Il y a un groupe de contestataires, de théologiens dissidents, qui officiellement ne suivent plus que Romney et ne veulent plus le suivre pour montrer, soi-disant, leur liberté intellectuelle et donner un témoignage de la liberté intellectuelle. Et il me dit, sur le nombre, ils sont les 2/3. Moi, j'essaie d'être fidèle à toujours ce qu'on m'a enseigné et ce que je crois être l'enseignement de l'Église. Mais ça devient impossible. Alors il me dit, est-ce que vous voyez en Europe et en France un lieu où l'on enseigne encore une philosophie saine? Il m'a dit, je suis très inquiet. Je ne vois plus aucun lieu en Amérique. Alors voyez la réponse que j'ai pu donner. Pas ici, parce qu'ici, c'est pas ça. Mais j'ai dit que peut-être on reprenait un effort à l'ULSH d'enseigner la philosophie. Alors il m'a regardé. Oh, comme c'est bien. Comme c'est bien. On en a besoin de ça, c'est très très utile. Savoir qu'il va y avoir un lieu où on va enseigner une philosophie dans le sens de saint Thomas, mais en même temps avec toute la souplesse qu'il faut pour notre monde d'aujourd'hui. Alors, ça m'a donné un témoignage, j'étais très heureux de voir la réaction qu'il avait devant ça. aussi, vous voyez. Je crois que c'est important de comprendre partout cette espèce de désagrégation au point de vue de doctrine. Mais d'autre part, une montée. Ce jeune David, n'est-ce pas, en face de tous les Goliaths, monte avec beaucoup de courage et désire, lui, être très net et enseigner.